les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les ondes buissonnières. Une mobilisation est en cours, ça ne vous aura pas échappé, au sujet des centres de santé sexuelle dans la Drôme. 7 d'entre eux sont menacés de fermeture et le budget des autres est promis à la diète. Bref, il semblerait que la prévention en matière de santé sexuelle ou de violences faites aux femmes ou tout ce qui concerne l'éducation à la vie affective ne soit pas une priorité du département de la Drôme. Vous pouvez déjà signer la pétition lancée par le planning familial de Valence, 16 500 signatures à ce jour. Vous pouvez aussi vous rendre à la manifestation à Valence ce vendredi 28 mars à 8h devant le conseil départemental. Une autre a lieu à 10 mardi dernier. La mobilisation se structure et pour se donner des arguments, on va réécouter aujourd'hui une émission de Garcette, émission féministe réalisée par le planning du pays de Lorient, qui nous parle de violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe du côté des victimes. Bonne écoute.
Garcette !
Garcette !
Garcette !
Garcette !
Garcette !
Une émission féministe.
Molière, en fait, parlait pas du tout au masculin, n'importe.
Nous allons rétablir la vérité.
Si une femme sautait trop fort ou trop loin, ses testicules allaient descendre, résultant à un brusque changement de sexe.
C'est la contraception thermique. Qui consiste à se remonter les testicules dans les cavités inguinales, c'est-à-dire dans le corps.
Bah carrément.
Parce que je les aime pas.
Alors détendez-vous. Tout va bien se passer, où que vous soyez, détendez-vous.
À bon entendeur, entendeuse.
Madame, monsieur, intersexe, non-binaire et gender fluide, bonjour et bienvenue chez Garcette, l'émission féministe du pays de Lorient. Aujourd'hui, on s'attaque à un cycle de 2 épisodes dédiés à un sujet difficile mais néanmoins incontournable, celui des violences faites aux femmes. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de violence ? On pourrait déjà partir de la définition de Johan Galtung, sociologue, qui dit très simplement qu'est violent tout acte qui limite les options d'un individu. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques chiffres issus du ministère de la Justice. 96% des auteurs de violences conjugales sont des hommes. 98% des violences sexuelles subies par des femmes sont commises par des hommes, de même que 75% de celles subies par des hommes. 84% des meurtriers sont des hommes. 86% des vols et tentatives de vol avec violence sont commis par des hommes. Et les femmes représentent plus de 80% des victimes d'homicides conjugaux. Elle le quitte, il la tue. Peut-on lire régulièrement dans nos colonnes de faits divers. Et les 20% de femmes qui tuent leur mari, alors me direz-vous? Eh bien, dans la plupart des cas, les femmes qui tuent leur conjoint sont victimes de sa violence et craignent de ne pas s'en sortir vivantes. Autrement dit, il semble difficile de nier que le problème de violence est genré. Dans ce premier épisode, nous avons choisi de nous intéresser au sujet du point de vue des victimes. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de Solange qui nous a raconté la violence de son ancien mari et l'engrenage dont elle a réussi à sortir. Ce sera notre reportage sur le terrain. Nous échangerons ensuite avec Mélaïque Ferroc, éducatrice spécialisée qui, en plus d'être militante de la première heure au groupe local du planning familial du pays de Lorient, travaille à l'Écoutille depuis sa création. Salut Méla, est-ce que tu vas bien ?
Ça va, merci. Bonjour Garcette.
Je pense que nos auditeuristes qui ne connaissent pas encore le dispositif de l'Écoutille trépignent d'impatience car ils et elles veulent déjà tout savoir de l'Écoutille. Mais on va les laisser mariner un tout petit peu avant que tu nous expliques tout ça parce que nous avons aussi à présenter les quelques garcettes ici présentes. À la technique, Anaëlle. Salut Anaëlle.
Salut.
Et surtout, tu n'hésiteras pas à intervenir en tant qu'ancienne militante du collectif Nous Toutes qui a justement milité sur le pays de Lorient pour la création de l'Écoutille dont il sera principalement question dans cette émission.
Avec plaisir.
Et autour de cette table, on a aussi Marie.
Bonjour.
Manon. et Anne-Claire.
Bonjour.
Salut les filles. Donc Anne-Claire, tu nous as concocté une petite chronique psycho.
Oui, où je vais essayer de vous dire un petit peu, parler un peu des questions de silence et de mise à l'abri pour les femmes victimes de violences.
Merci. Et puis Manon, merci d'avoir réalisé le montage de l'interview de Solange. Et Marie, on va parler du code Angela, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Et puis nous aurons aussi la première chronique juridique de Margot, qui n'est pas avec nous dans le studio aujourd'hui, mais qu'on salue tout de même, évidemment. Et on espère que cette chronique n'est que la première d'une longue série, parce que le féminisme a besoin de tous les champs de compétences. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des idées de chronique, des suggestions de thématiques ou toute autre idée géniale, n'hésitez pas à nous écrire à garcette56@gmail.com. Voilà, alors c'est parti mon clicli, et on part tout de suite avec...
Le reportage.
Ouais, on va vous diffuser le témoignage puissant de celle qu'on appellera Solange pour garantir son anonymat. Un témoignage qui révèle les mécanismes d'emprise, mais aussi les lueurs d'espoir incarnées par un médecin à l'écoute, une voisine bienveillante ou une association de soutien.
Moi, je l'ai connue, j'avais 16 ans. Moi, j'étais chez mes parents encore. Et c'est vrai que c'était pour un charmant. Très prévenant, très bien élevé, très adorable. Et on est parti habiter ailleurs. En fait, je crois que j'étais amoureuse de l'amour, en fait. J'étais romantique, 18 ans, naïve. J'avais tellement envie quand même. Donc en fait, lui, c'était l'amour parfait. J'avais trouvé le prince charmant. Voilà. Et puis je voulais pas savoir que le prince charmant, il avait un mauvais côté. J'avais cette dépendance affective. La première fois, c'était dans un bus. Moi, je sais pas, j'avais un truc à mon bout d'un moment, je fais ça, quoi. Et ça lui a pas plu. Et il a décidé qu'il ne me parlait plus. Et ça a duré toute la soirée. J'ai fini par comprendre que c'était ce geste qu'il n'avait pas accepté, qu'on ne fait pas ça dans la rue. Enfin bon. Et puis, petit à petit, les colères ont commencé. Alors c'était... il ne m'a jamais tapé. Mais il cassait. Il s'énervait. S'il ne fallait pas lui tenir tête. Il m'avait dit, de toute façon... tu gagneras jamais à ce jeu-là. Puis il m'avait même dit, dans les grosses colères, il me disait, ne réveille pas la bête qui est en moi, parce que là, tu sais pas de quoi je suis capable. Ça durait peu de temps au départ, les colères, et il s'excusait pas, mais après, il était charmant. Alors, je m'en voulais, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Puis il me faisait comprendre que c'était de ma faute. C'était moi qui avais provoqué ça. Si je n'avais pas fait ça, il n'aurait pas piqué sa colère. Et en fait, j'ai pas vu qu'il m'isolait. Oui, j'étais vraiment naïve au maximum et amoureuse. Franchement, un jour, il a dit devant son cousin, il a dit, de toute façon, si elle part, moi, si elle veut partir, c'est simple, je vais tirer une balle dans les jambes. Et comme ça, elle n'irait pas loin. Il a piqué une colère un jour en voiture. On allait chez une de ses tantes et on était en retard. Et en voiture, il a commencé à... J'avais les quatre enfants derrière. Il a commencé à faire plein d'écarts sur la route, rouler comme un fou, etc. Je me suis dit, mais arrête. Non. Puis il continue à piquer sa colère. Les enfants étaient derrière. À un moment, je me dis, mais non, mais arrêtez-vous. On est arrivé chez sa tante. Personne n'a compris ce qui se passait, mais bon, j'ai inventé. Parce qu'à chaque fois, je cachais. J'avais honte, en fait. En fait, il y avait toujours cette honte en pensant, c'est moi qui ai déclenché ça. Systématiquement, il essayait de me diminuer. Il m'a pris, il m'a soulevé contre le mur, puis il a commencé à me hurler dessus devant les enfants. Et il a hurlé toute la soirée. Les enfants sont partis se coucher. Et à ce moment-là, je pleurais forcément, parce que ça, j'ai beaucoup pleuré. Et il aimait beaucoup que je pleure. Tant que je pleurais pas, il continuait à m'insulter. Et là, il a pris son arme, il l'a armé. Et il s'est mis contre sa tempe. Il m'a dit, si tu continues à pleurer, je me tire une balle dans la tête. Alors maintenant, tu ne mouffes plus, tu ne parles plus, tu ne bouges plus. J'ai contrôlé au maximum. Je pleurais pas, je faisais pas le bruit. Toute la nuit, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit qu'il peut se tuer. déjà, ça m'aurait affectée puisque j'étais encore amoureuse. Mais en plus, je me suis dit, il est capable de me tirer dessus avant aussi, et peut-être les enfants. Donc, un coup de folie, parce que là, c'était quand même pas normal, quoi. Ça s'arrêtait pas d'un coup, c'est-à-dire que le soir, ça s'arrêtait. Il parlait plus. Ça durait le temps de la punition, parce qu'il fallait me punir. Parce qu'il s'était énervé, donc il avait perdu son calme. Il fallait me punir. Et il attendait à ce moment-là, suivant le temps, l'humeur. Ça pouvait durer 3 jours, une semaine. Ça, je commençais déjà à me dire, je suis dans un engrenage, là, je ne peux pas partir. Je ne peux pas. Avec les enfants, ce n'est pas possible, les quatre. Je ne peux pas partir. J'ai peur, en plus, si je pars. En fait, il avait réussi à ce que les enfants soient en dessous de lui, que je sois que ce soit plus important que je lui fasse plaisir et que je sois la bonne gentille femme que la bonne mère. En fait, c'était pas, même pas il faut que je parte, c'était comment ça se fait que je peux pas partir. Et tous les jours je me disais, mais il faudrait que je parte. Et puis, ben, le peu de personnes à qui j'en ai parlé, je me disais, mais moi, je ne supporterais pas ça. Je ne peux pas partir. D'abord parce que j'ai peur de partir. Puis ensuite, parce que je n'y arriverai jamais. Parce qu'en fin de compte, il m'avait tellement diminué. Il me disait que de toute façon, je finirais en HLM. Alors, c'était que le divorce était un déclassement social, que je n'arriverais pas à me débrouiller, que je ne savais rien faire. Bon, je disais, t'es tellement nul que je me disais, bah oui, je n'y arriverai jamais à me débrouiller, en fait. À chaque fois, il a réussi à trouver des choses pour m'empêcher de partir. Me faire croire que ça serait terrible, ce que je ferais, ce que je vivrais, que c'était pas possible, que je pouvais pas partir. J'avais l'impression que je pouvais pas vivre sans lui, quoi. Puis j'avais pas envie de partir, parce que je voulais pas laisser ma maison. Et puis, à un moment, au mois d'août 2022, ça a explosé. J'ai dit, c'est fini, plus jamais je lui reparle. C'est plus possible. Je suis allée chez le médecin. Puis, ça débordait. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai lâché le morceau, puis je pleurais. Elle me dit, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut que vous partiez. Je dis, mais je ne peux pas partir. Elle me dit, en tout cas, vous allez aller voir la psychologue, parce que là vous ne pouvez pas tenir comme ça. Petit à petit, elle m'a fait comprendre que ma maison, c'était plus ma maison, en fait. En fait, je vivais dans une pièce. Plus ça allait, plus il prenait de l'emprise sur Van. Il prenait vraiment toute la maison pour lui. Et donc j'ai fait une demande de logement. Mais la demande de logement, ça aurait été simple, parce qu'au départ, on m'a rien dit. On m'a dit, oui, effectivement, vous préparez tel papier. Donc je me suis dit, je vais partir. Je partirai soit la nuit, soit le matin, quand il dort. Et à ce moment-là, je lui annoncerai que ce divorce, etc. Oui, mais ce n'était pas comme ça que ça allait se passer, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, la dame des HLM m'a appelée en me disant, on a un problème. On vient de se rendre compte que pour votre dossier, pour qu'il avance, il faut que vous portiez plainte ou que vous ayez, une procédure de divorce engagée. Je dis, mais je ne peux pas. Elle me dit, oui, mais si on ne fait pas ça, c'est pas possible. Parce que, en fait, autrement, elle me dit, vous passez sur le quotient familial de votre mari, j'ai pas de coup, pas de trace. Puis on va me dire, vous avez des preuves? Moi j'ai pas de preuves, rien. Je me suis dit, ça tourne pas rond, je commence à avoir des idées noires. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces idées noires, c'était un appel au secours, en fait, je voulais de l'aide, quoi. Je voulais que quelqu'un me dise, mais si on peut quelque chose pour toi. Et moi, petit à petit, quand j'ai su que j'allais partir, que j'allais trouver un logement, petit à petit, quand je sortais, j'emmenais des choses. Discrètement, dans les sacs, et puis j'avais trouvé une ancienne voisine avec qui j'étais en contact et qui savait comment il était, parce qu'elle l'avait entendu dans la rue me parler comme un chien. Et puis du coup, elle me dit, écoute, on a un garage, si tu veux, petit à petit, tu t'amènes des affaires. C'est ce que j'ai fait. Et grâce à l'écoutille, à ma psychologue qui m'avait fait un témoignage. Et grâce à ça, en commission, c'est passé. Et donc, j'ai eu le logement. Dès que j'ai su que j'allais avoir l'appartement, mais je ne savais pas encore quelle date, j'ai commencé à passer les affaires par la fenêtre le soir. C'est une évasion. C'est, quand je revois ça, je me dis, ouais, je pourrais jamais oublier ça. C'est dans un état de stress énorme, tout le temps. C'est pour comme ça, à me demander si j'allais réussir. Donc c'était au mois de juillet. Je passais sur une chaise par-dessus la fenêtre et j'avais mis une chaise de l'autre côté pour repasser, etc. Je déposais dans le jardin et petit à petit, quand j'ai tout descendu dans le jardin et que j'ai fait finir la fille de la voisine, j'ai amené par-dessus le grillage, parce qu'en fait, ce jardin-là n'a pas de barrière. Je passais par-dessus le grillage et je passais tous les trucs et les mettais dans sa voiture. Et donc on a fini ça, on a dû finir à 11h30. J'étais pieds nus pour pas que ça fasse de bruit. C'est un film. Quand je revois ça, c'est irréel. Et je marchais tout à petits pas pour pas faire de bruit parce que j'avais peur qu'il me guette. On avait convenu avec la fille de la voisine qu'elle attendait que je sois rentrée pour repartir, pour être sûre. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et puis à 3h du matin, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je m'en aille. Je peux pas rester, je pouvais pas dormir de toute façon. Bah, tout était déjà parti là, j'avais plus que mon chien et puis quelques affaires. Donc j'ai pris mon chien, les affaires, je suis partie pieds nus dans la voiture. Et là, j'ai pris la voiture et je suis allée juste sur la plage de Haute-Maria et j'ai attendu que le jour se lève parce que j'avais rendez-vous à 9h pour prendre les clés ici.
Donc je me tourne maintenant vers notre invité et on enchaîne avec...
l'interview.
Mélaïg, on est ravis de t'accueillir dans ce studio aujourd'hui. Et je me dis qu'on peut peut-être tout simplement commencer par te dire merci, parce que sans toi, le planning du Pays de l'Orient n'existerait pas. Et ça, c'est important de le rappeler.
Ben de rien, et merci à toutes les copines qui sont embarquées dans l'aventure.
Et puis du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter l'Écoutille, l'histoire de la création de cette structure?
Eh bien, l'Écoutille a 3 ans aujourd'hui. Ça a ouvert en septembre 2021. C'est une structure qui est née suite... En fait, il existait un lieu qui s'appelait Moment pour Elle sur le Pays de l'Orient quelques années auparavant, qui a fermé faute de financement. Face à cette fermeture, il y a un collectif qui s'appelle Nous Toutes, entre autres, qui a interpellé les politiques et qui a dénoncé cette fermeture en mettant en avant qu'il manquait ce lieu-là sur le Pays de l'Orient, qui était indispensable. Ils ont interpellé les politiques et dénoncé ça. Suite à ça, il y a eu du coup un appel à projet de l'Orient Agglomération, auquel la Sauvegarde 56 et le CIDFF ont répondu. Aujourd'hui, l'Écoutille, c'est un lieu qui est un dispositif qui est porté par la Sauvegarde 56 et le CIDFF. Et en fait, ils ont commencé par faire un état des lieux de ce qui manquait sur le territoire. Et donc, a été décidé d'ouvrir ce lieu. Parce qu'il faut savoir que l'Écoutille, c'est un lieu d'accueil pour toute personne victime de violences sexistes et sexuelles et violences intrafamiliales, pour toutes les personnes de l'Orient Agglomération et depuis peu des 5 communes de la CCBOC. C'est aussi un dispositif dans le sens où il y a une professionnelle qui est coordinatrice et qui a pour mission du coup de former des personnes sur toutes les communes de l'agglomération et de la CCBOC. Ont été formées 2 personnes sur les communes pour faire du premier accueil pour les personnes victimes de violences. Donc là, ça existe sur toutes les communes. Elles permettent un premier rendez-vous et une première écoute et orientent vers les partenaires compétents en fonction de la demande de la personne. Parce qu'il y avait quand même cet état des lieux-là, qu'il y avait des besoins sur tout le territoire.
Ben oui.
Mais nous, on est sur l'Orient, donc parfois c'est difficile aux personnes de venir, connaissent pas forcément le lieu. Donc l'idée, c'était avec le dispositif de former aussi des personnes au plus proche, donc dans les communes.
Donc pour un premier... une première écoute, une première orientation. Et puis après, quand les personnes arrivent à l'Écoutille, de quoi elles peuvent bénéficier du coup ?
Eh bien, à l'Écoutille, du coup, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc, on est 2 travailleuses sociales, une juriste civile, une psychologue. Il y a aussi des partenaires qui interviennent, qui font des permanences. Donc déjà, nous, le premier accueil se fait par les travailleuses sociales. Donc, on propose de l'écoute, de l'orientation si besoin. C'est vraiment un lieu d'écoute où on vient parler que de sa situation, que des violences. Donc, on se rend compte que la plupart des personnes, elles n'ont pas eu l'occasion d'en parler, ou elles en ont parlé, mais dans un autre contexte. Et puis, du coup, on propose un accueil, des entretiens en fait, individuels, où les personnes peuvent en parler et on part de leurs besoins. Donc, nous, on peut accompagner dans le décryptage des violences, parce que la plupart des personnes arrivent en disant bah, « je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas trop ». Donc, nous, on accompagne ça au décryptage des violences. On fait aussi une évaluation du danger. Et on oriente, si besoin, vers la collègue juriste au civil. Donc la collègue, elle informe sur les droits s'il y a séparation, les enfants. Et il y a une psychologue qui peut proposer un suivi psychologique. Et on a des partenaires qui interviennent aussi, mais plutôt au pénal. Donc on va avoir France Victime 56 et une gendarme au civil, qui aussi intervient pour tout ce qui est procédure au pénal, pour informer aussi sur les droits. Donc on part vraiment de l'histoire de la personne et on leur explique aussi qu'il n'y aura évidemment pas de jugement et surtout on va être en fonction de leur rythme. On ne va rien imposer. En fait, c'est un lieu où des personnes viennent une fois, déposent leur histoire, puis on ne va plus les revoir ou peut-être 6 mois après. Et il y a des personnes qu'on va revoir toutes les semaines, tous les 15 jours. Nous aussi, on peut les accompagner dans les démarches. Par exemple, s'il y a besoin d'un accompagnement physique pour rencontrer une avocate, c'est aussi possible. Enfin, l'idée, c'est d'être, de répondre à leurs besoins. On évalue vraiment le besoin des personnes.
Et de partir de là où elles sont et puis de les accompagner à leur rythme. Quoi.
Tout à fait.
D'accord. Ouais. Est-ce que du coup, le témoignage de Solange, là, qu'on vient d'entendre, il est représentatif de ceux que vous recueillez à l'écoutille ? Je me demandais un peu, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve dans la majorité des récits des victimes ?
Oui, tout à fait. Ben, déjà, merci Solange, parce que ce témoignage, je le trouve très beau et très tellement vrai et tellement juste. Il représente en effet vraiment les situations des personnes. Enfin, dans ce qu'elle dit, elle parle vraiment du fait que au tout début, c'était la rencontre. Et puis que cet homme-là, elle en était amoureuse, que c'était un prince charmant, qu'il était l'homme idéal. Et donc, elle est tombée amoureuse. Et que petit à petit, s'est mis en place des silences, puis des violences. Et elle explique, il n'y a pas eu de violence physique. Donc ça, en effet, nous, la plupart des personnes qu'on accueille à l'écoutille, elles témoignent de ça, qu'il n'y a pas de violence physique, mais qu'il peut y avoir des violences psychologiques, économiques, c'est-à-dire autour de l'argent, le fait qu'elles n'aient pas accès à l'argent ou que la maison de son nom de monsieur n'est pas à elle. Voilà, qu'économiquement, du coup, elles peuvent vite être en difficulté. Ça peut être aussi des violences administratives ou des violences sexuelles. Et pas forcément de violence physique. Du coup, un peu à l'inverse de l'idée de ce qu'on se fait dans la société, qu'une personne victime de violence est une personne victime de violence physique. Donc nous, on accueille toutes les personnes, vont plutôt dire des violences psychologiques. Et donc ça, elle le met en avant. Et elle met en avant vraiment aussi le cycle de la violence. Ça, c'est un outil qu'on utilise parce que c'est quelque chose qui a été mis en avant par des études. Qu'en fait, les violences... Elles ne sont pas là tout le temps, en fait. Il y a des moments où, avec le conjoint, il peut y avoir des moments où c'est calme. Puis, il va y avoir des moments de tension, puis de la violence. Et après, une tentative de réparation, de justification de la part de l'auteur. Et ça, elle le dit très bien. Elle dit, de toute façon, ils mettent tout le temps la faute sur moi. Elle le dit. Et en effet, du coup, ça amène le fait que la victime, elle se dit, c'est de ma faute, j'en suis pour quelque chose en fait. On est un couple, il s'énerve, il dit que c'est de ma faute, en fait c'est à moi de changer. Donc la plupart des victimes arrivent en disant en fait il faudrait peut-être que je change, c'est de ma faute. Donc ça amène vraiment une perte d'estime de soi et une perte de repère.
Et sur la question des classes sociales, est-ce que la plupart des personnes qui viennent à l'écoutille font partie d'une même classe sociale ou on trouve... De tout
On trouve de tout. On trouve de toutes les classes sociales et tous les âges. Vraiment, il faut avoir en tête, donc nous, c'est à l'écoutille, mais en fait, il y a eu des études, il y a eu des enquêtes qui ont été faites au niveau national qui mettent ça en avant, que c'est vraiment... ça peut toucher tout le monde parce que ça se met en place petit à petit. Pour les violences conjugales, déjà, ça part... d'un couple, il y a des sentiments amoureux et ça se met en place petit à petit. Donc c'est très compliqué à décrypter. Et donc ça peut vraiment arriver à tout le monde.
Merci, je vous propose d'écouter un titre d'Ocytocine, « Je suis à moi ».
T'as décidé que c'était pas moi qui déciderais, que de toute façon j'allais céder, qu'on s'en foutait de ce que je voulais. T'as dit je la vois, t'as dit je la veux, t'as dit je la baisse. Tant pis je la viole. Moi je t'aimais avec toi, toutes les gestes qui m'étaient destinés. Et quoi que je fasse ou pas, je serais frige, frivole, alors je vais m'essayer guider. Tu disais que je te rendais fou, que dans mes bras tu contrôlais plus rien, que je vais te donner tout. Et le reste est resté flou, mais je sais que t'es passé de vouloir à exiger, que c'était à moi de m'en vouloir me raviser. Car dans mes yeux devait se refléter l'homme que tu veux incarner. Donc t'as fini par me demander pourquoi je pourrais pas te prendre ça comme qu'est-ce que t'es prude salope. Et est-ce qu'une question rhétorique du type je te baise ou je te nique. Mais moi j'étais le second rôle et j'avais pas la réplique. Car tu fais que réplique les films que tu t'es déjà fait. En prenant comme figurante, tu m'as laissé sidérer. Car y'a que ma déférence qui t'a aimé entre s'aimer et céder. La différence était de taille. On sait ce que c'est que le sexe. C'est qu'un jeu drôle, mais dans l'alcool faut qu'on innove. Car si c'est ça le love, qu'est-ce que c'est le viol? Oh. Mais je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi. Mais je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi. Je réclame le pouvoir de dire non. Et je veux que t'aies le devoir de l'entendre. Car je suis à moi, de la première à la dernière fois. Alors tu dis que j'ai désiré, que c'est pas possible.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Garcette sur les ondes de Radio Balise 99.8. On vient d'écouter le début de Je suis à moi d'Ocytocine. Et on enchaîne avec la chronique juridique de Margot.
Aujourd'hui, je vous parle de droits et d'obligations. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas hyper fun, mais c'est sacrément utile. Et si après cette chronique, vous êtes mieux armés pour connaître et défendre vos droits, alors j'aurai fait mon job. J'en viens au sujet d'aujourd'hui. Quitter le domicile conjugal est l'une des portes de sortie pour les personnes victimes de violences conjugales. Malheureusement, ce n'est pas toujours simple à mettre en place. Alors, que faut-il savoir sur le plan légal quand on veut quitter le domicile conjugal ? Aujourd'hui, en 2024, si vous quittez le domicile conjugal sans l'accord de votre mari, il s'agit d'une violation du devoir de communauté de vie qui découle du mariage et qui est prévue à l'article 215 du Code civil. Cela permet à l'époux « lésé », je mets des guillemets, de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal et même le divorce pour faute. Attention, il ne s'agit pas pour autant d'un délit, partir du domicile conjugal n'est pas passible d'amende ou de prison. Le départ aura néanmoins une incidence lors du divorce ou de la demande concernant l'exercice de l'autorité parentale s'il y a des enfants. Donc le but ici, c'est de préparer son départ en connaissance de cause, dans l'idéal en ayant consulté un avocat au préalable. Quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on souhaite quitter le domicile conjugal sans que cela soit considéré comme un abandon de domicile ? L'important est de se protéger et de constituer des preuves pour contrer une éventuelle faute. Deux cas de figure. Soit vous souhaitez partir temporairement et cela ne constitue pas une faute. Il vous suffit alors de prévenir des personnes de votre entourage, comme la famille, des amis, des collègues, qui pourront ensuite attester qu'il ne s'agissait pas d'un abandon de domicile. L'idéal est également d'en informer votre conjoint par écrit, SMS ou email, peu importe. Soit vous souhaitez partir définitivement. Si une discussion est encore possible, le mieux, c'est de trouver un accord avec votre conjoint, rédiger un petit document écrit indiquant que vous partez, que vous l'avez informé, qu'il est d'accord. Si aucune discussion n'est possible, il est préférable d'aller déposer une main courante au commissariat le jour de votre départ, mentionnant les raisons du départ. Cela permettra de rajouter une preuve écrite que la vie commune était devenue insupportable et intenable du fait du comportement de votre mari. L'étape suivante consiste ensuite à engager le plus vite possible une procédure de divorce et ou de demande d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Effectivement, en France, seul un juge peut autoriser un couple à mettre fin à leur vie commune en attendant le jugement de divorce. Voilà, j'espère que cette chronique aura su répondre à vos interrogations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique juridique.
Merci beaucoup Margot pour ces conseils pratico-pratiques. On est toujours avec Mélaïque Ferroc, éducatrice à l'Écoutille. Et Mélaïque, j'avais envie de te poser cette épineuse question. Pourquoi dans nos histoires d'amour, on reproduit des histoires de violence ?
Eh bien, on peut se dire que, en fait, les violences, ce n'est pas un fait individuel. C'est vraiment un fait de société. Et que, en fait, à la base des violences conjugales, c'est vraiment lié aux inégalités hommes-femmes, qu'on vit dans une société dite patriarcale et qui du coup, l'homme va dominer la femme sur, dans plusieurs domaines. Et que du coup, on voit aussi que dans l'éducation des enfants, eh ben, on va avoir une éducation différente pour les filles et les garçons. Et on se rend compte, ben, dans les études, hein, là, on dit merci à tous ces sociologues et autres qui ont fait plein d'études, que les petits garçons, ben, ils vont beaucoup être élevés où ils ne vont pas développer l'empathie. Et à l'inverse, les petites filles, on va être beaucoup dans le prendre soin de l'autre. Donc déjà, ça amène une différence.
Un contexte culturel, sociétal, qui fait que, qui peut-être explique les chiffres qu'on a donnés un peu en introduction de cette émission, et qui disent quand même que la majorité des auteurs sont des hommes et la majorité des victimes sont des femmes.
Tout à fait, ouais. Et que c'est vraiment lié à un système, à une société. Que c'est pas un fait individuel d'être victime de violence.
Donc ça, c'est finalement un peu la lecture féministe de cette question des violences. La domination masculine, elle est systémique.
Tout à fait. Elle est systémique. Et puis, on peut aussi parler du continuum des violences, qui est aussi quelque chose qui a été étudié, un concept qui a été étudié, dans le sens où les violences, elles peuvent se retrouver à différents moments de la vie. Et qu'en fait, une personne va pouvoir dire qu'elle a été victime de violences à différents moments de sa vie. Et ça va être à l'école, enfant, de ne pas avoir été écouté, puis au travail, de ne pas avoir eu accès à tel poste parce qu'on est femme. Ça, c'est aussi des formes de violence. Et dans la société, ce qui est aussi beaucoup, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que est très présent la culture du viol dans notre société actuellement. C'est-à-dire que on banalise un peu les violences et que on met la femme comme objet. Alors ça, comme exemple, on va le retrouver dans les pubs, dans les films, où pour vendre une bagnole, on va retrouver une femme quasi nue sur une voiture pour vendre la voiture. Donc là, la femme est vraiment femme-objet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui monte, qui banalise la violence et banalise que le fait que la femme ait cette place-là dans la société, quoi.
Et comment on peut aider les victimes de violences avec une approche féministe, selon toi ?
Eh bien, selon moi, c'est déjà les écouter, prendre en compte leurs paroles, ne pas la remettre en question. C'est vraiment ne pas avoir de jugement et ne pas remettre en question la parole. Les déculpabiliser, justement. En fait, faire un pas de côté sur le fait que ce n'est pas quelque chose qui est lié à sa personne, mais que c'est un fait de société. Et avoir vraiment cette approche-là qu'on est avoir en tant que professionnel, le fait que ce soit systémique, quoi.
Et peut-être que tu es venue avec un petit conseil lecture.
Tout à fait. Sur ce sujet-là, donc là, c'est particulièrement sur la violence conjugale, il y a le roman graphique « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda, qui est un roman graphique qui explique bien justement cycle des violences, la stratégie de l'agresseur. On n'en a pas parlé, mais ce qui se met en place justement dans un couple quand il y a des violences conjugales. Et puis, il y a aussi un autre livre de Valérie Ray Robert qui s'intitule « Le sexisme, une affaire d'homme », qui justement amène le regard sur la place de l'homme dans la société. Une lecture intéressante pour justement ce côté systémique et comment faire bouger les choses.
Merci beaucoup. C'est l'heure de notre chronique psycho. Anne-Claire, on te laisse la parole.
Mais pourquoi elles ne partent pas ? C'est cette phrase mille fois entendue qui m'a amenée à réfléchir sur les notions de silence et d'abri dans les situations de violence conjugale. Elles ne partent pas parce qu'elles sont sans abri, sans l'abri d'une écoute empathique. Parce que les mots peuvent offrir un abri, mais il faut pour cela qu'ils soient entendus, qu'ils ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Or, qui croit savoir mieux que celui ou celle qui dit est le pire sourd possible, fût-il pétri des meilleures intentions ? L'ennemi des victimes de violences, c'est le silence. D'abord le silence lié à l'agression elle-même. Selon le docteur Salmona, psychiatre, subir des violences absolues qui ne sont pas pensables, pas représentables, entraîne un effet de sidération, un blocage du cortex. Le cerveau a pour seule possibilité de faire disjoncter le système. Il y a une dissociation. La réponse émotionnelle est isolée à l'état brut, hors d'atteinte du sujet. Le cerveau ancre, imprime la douleur, sans pouvoir la traiter, l'exprimer. Et puis concrètement, le silence des victimes est la plus grande force des agresseurs, plus spécifiquement encore au sein d'une cellule fermée comme le couple ou la famille. Les menaces proférées par le conjoint violent, la peur de dire, la honte d'avoir dit, la honte de n'avoir pas dit, les obstacles à la possibilité de rompre le silence sont nombreux. C'est pourquoi dire, c'est pouvoir enfin se mettre à l'abri. D'abord, c'est pour la victime pouvoir être entendue et reconnue exactement là où elle est, physiquement, socialement et psychiquement, par rapport à ce qu'elle a vécu ou vit encore. La parole est une mise à l'abri contre le silence qui permet la répétition des actes violents. Dire, c'est aussi, avec la garantie d'une écoute authentique, une mise à l'abri contre la suspicion et le jugement. Cela exige de ceux qui recueillent la parole, qu'ils soient policiers, soignants, travailleurs sociaux, mais aussi amis ou parents de la victime, cela exige d'eux, de nous, d'écouter avec nos deux oreilles et pas avec notre nombril, mettre de côté nos certitudes, nos bons conseils et nos projections, pour laisser à celle qui dit toute l'ampleur et toute la puissance de son travail de parole. Il faut être humble et solide dans l'écoute pour dégager la voix à ce qui doit se dire, sans quoi on maintient la victime dans sa position d'objet. Même si on ne comprend pas tout, de toute façon, on ne comprend jamais tout. Pourquoi elle ne parle pas, pourquoi elle ne part pas, ça ne doit empêcher ni l'écoute, ni l'empathie. Quand il devient possible de dire, parce qu'il y a des oreilles pour être entendu, les mots peuvent circonscrire le réel, le mettre à distance, l'intégrer dans une toile de vie bien plus vaste, qui permet à la personne violentée de retrouver sa pleine condition de sujet, son agentivité, et de vivre sa vie. À bonnes entendeuses.
Merci Anne-Claire. Et pour finir, un petit point sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Marie, c'est à toi.
Oui, je voudrais vous parler du nom de code Angela. Angela, c'est un nom qu'il faut retenir et dont il faut parler autour de vous. Il ne s'agit pas de la chanson du Saiyan, dont l'air vous revient à sa simple évocation, mais plutôt d'un code à utiliser lorsque l'on se sent menacé ou que l'on est harcelé. Cette technique, créée dans un pub en Grande-Bretagne en 2016, s'installe peu à peu dans les bars, les festivals, les salles de musique, mais aussi dans les commerces. Une affiche « Vous pouvez demander Angela ici » les signale. Vous pouvez demander Angela dans un de ces établissements, pour vous ou pour une personne en danger. Une entraide se mettra en place pour accueillir la victime, l'isoler, la soutenir et prévenir les secours. Dans tous les cas, il est nécessaire de prévenir les secours, Angela ne s'y substitue pas. On retrouve maintenant ces affiches au comptoir de bar ou plus souvent dans leur sanitaire pour encourager les personnes importunées à se faire connaître. Ces affiches permettent également de sensibiliser le public sur la présence toujours trop importante d'harcèlement, d'agressions verbales ou physiques. On vous rappelle les numéros de secours également, 112 pour les secours, 17 pour la police, 3919 pour violence femmes info. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur les sites arrêtonslesviolences.gouv.fr et puis auprès des assos, notamment du planning familial de l'Écoutille.
Merci beaucoup à toutes les garcettes et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 2e épisode de ce cycle dédié à la question des violences. Et la prochaine fois, on ira voir d'un peu plus près ce qui se passe du côté des auteurs. Garcettes, c'est fini pour aujourd'hui.
C'est fini.
Pour nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à
garcette56@gmail.com.
Et si vous avez des questions au sujet des sexualités, de la contraception ou de l'IVG, vous pouvez appeler le numéro vert du planning familial au
08 0800 11 11.
C'est anonyme et gratuit. À bientôt sur les ondes de Radio Balise.